Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle.
Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est dégradé. Déshumanisé. Deux cinq couvrant la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon contre toutes les prisons et contre le monde qui va avec. On est sur Radio Duo 89.5 à Saint-Étienne et un peu autour. Et aussi, on est retransmis en direct sur Radio Canu 102.2 du côté de Lyon et aux alentours aussi. Émission Papillon, ce soir, on a un programme bien chargé. On a quelques invités. Et dans le désordre, on va parler d'un événement qui a lieu ce week-end à Saint-Étienne, un forum autour de l'armement policier, le désarmement de la police plus précisément, et la démilitarisation des conflits. Donc ça aura lieu samedi et dimanche, on a des invités qui vont nous en parler plus tôt dans la deuxième moitié de l'émission. On va aussi parler d'une circulaire qui a été émise par... le ministère de la Justice il y a quelques semaines. Ça sera en cours plutôt dans la deuxième moitié aussi, mais en première partie on va avoir, si tu peux me préciser un peu plus.
Et ben en fait on va avoir une interview d'une personne qui a fait un documentaire très chouette autour de qui se base sur vraiment des témoignages de prisonniers, d'ex-prisonniers, et qui fait les allers-retours entre la France et la Turquie. Et ce documentaire du coup il s'appelle Panoptisme, et on a justement le réalisateur, je sais pas si on dit ça, mais voilà, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ?
Ouais,
on t'entend.
Bonsoir. On t'entend bien. Donc, salut à toi. Ouais, merci. Et du coup, est-ce que tu peux commencer par présenter un peu peut-être te présenter si tu as envie, et puis présenter surtout ton documentaire, la genèse, dans quel cadre il a été fait, et puis nous dire un peu des choses là-dessus.
Ok, pas de problème. Du coup, c'est un documentaire qui s'appelle Panoptisme, qui est un documentaire franco-turc qui traite de l'expérience carcérale, et plus particulièrement de la mémoire de deux prisons qui sont désaffectées aujourd'hui. Donc la prison de Bayram Pasha à Istanbul et de Sainte-Anne en Avignon. Et moi je traite la mémoire de ces lieux exclusivement d'un point de vue des anciens prisonniers. Donc voilà, c'est une série de témoignages d'anciens détenus de ces endroits-là qui sont mis en scène sous forme d'une série en 13 épisodes. Accompagné d'une composition musicale sur chacun des épisodes. Voilà.
Alors, la prison Sainte-Anne, c'est la prison qui était en dessous du Palais des Papes, c'est celle-là ?
Exactement.
Ouais,
exactement,
ok. Ouais. Qui était vraiment donc, plein centre, une vieille, ouais, une vieille
en
prison.
En plein centre-ville et qui est toujours vide depuis 2003.
Ouais.
Donc voilà, là, divers projets de réaménagement dans ces lieux-là, mais Istanbul, elle a été détruite quasiment directement parce que c'était un gros endroit de prisonniers politiques à l'époque. Donc on a décidé de tout détruire pour construire un centre commercial, enfin, ils oubliaient ce qui s'est passé.
Ils ont fait pareil à centre de Saint-Etienne.
Il y a eu différents projets, mais en fait, ils sont bien emmerdés avec cet endroit-là. Ils savent pas trop quoi en faire, en fait.
Ouais, bah oui, en plus, oui, à la proximité de monuments historiques, etc. Quoi.
Ouais, ouais, et puis c'est classé, c'est un monument qui est classé, c'est un bâtiment qui est classé, donc c'est des travaux qui coûtent extrêmement cher et c'est complètement vétuste.
Ouais.
Du coup, c'est complexe à travailler dessus.
D'accord.
Voilà, puis, donc moi, en fait, je suis arrivé à travailler sur sur la France et la Turquie, en fait, à la suite d'un voyage. En Turquie, en fait, j'ai fait mon Erasmus là-bas quand j'étais étudiant. Et en fait, rapidement, j'ai été marqué par un peu la proximité que pouvaient avoir les prisons avec les questionnements des gens qui m'entouraient. En fait, moi, en France, j'étais très loin de ces questionnements-là à l'époque. Et en Turquie, il y avait tous les étudiants autour de moi connaissaient une personne ou avaient entendu parler de gens qui étaient en prison, notamment via les prisonniers politiques. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu sauté à l'esprit. Et du coup, en fait, en rentrant en France, j'ai commencé à militer au Genepis, donc une association d'étudiants qui œuvre pour le décloisonnement des institutions carcérales. Et du coup, je suis intervenu en prison pour différents ateliers. Et clairement, en fait, j'avais envie de raconter un peu ça. Et de traiter en fait le sujet avec le recul de personnes qui ont été incarcérées mais qui sont sorties aujourd'hui en fait. J'avais envie de parler de l'entrée jusqu'à la sortie, même de voir comment la prison, même une fois sortie en fait, c'est pas terminé quoi. Et du coup voilà, c'est un peu dans cette optique là que j'avais envie de traiter le sujet.
Ok. Et alors du coup, c'est vrai que les gens vont l'entendre, hein, mais il y a souvent des allers-retours. Alors c'est athématique, ça suit chronologiquement un peu. On commence par l'entrée, la fouille dans la cellule, et puis après bon, il y a le temps qui passe, etc. Plein de petits de thèmes différents. Et régulièrement, tu fais des allers-retours entre la France et la Turquie, et à travers la prise de parole d'anciens prisonniers. Et du coup, voilà, est-ce que pourquoi tu as choisi de faire ça? Qu'est-ce que tu voulais en gros montrer à travers cette démarche-là?
Ouais. En gros, j'ai chaque épisode, c'est un regard croisé entre deux personnes. Donc, à chaque épisode, ça change un peu. Là, en début, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent, mais après, ça change pas mal. Et donc, ouais, dans chaque épisode, il y a trois voix. Donc, il y a les deux personnes qui sont deux anciens détenus. Et une voix off qui opère un peu la traduction et qui fait le lien entre les deux langues, parce qu'il y a quand même une langue inconnue. Du coup, il y a une traduction qui s'imposait un peu, donc du coup, tout n'est pas traduit, mais l'idée c'est quand même de donner des billes de compréhension pour que l'auditeur puisse quand même se raccrocher à des petits éléments de sens. Donc moi, en fait, ce que j'ai voulu faire à travers ça, c'était de raconter... Ça, c'est parti d'une idée très personnelle de vouloir raconter mon histoire vis-à-vis des prisons. Et au-delà de ça, en fait, moi, ce que je voulais, c'était montrer que l'incarcération, c'était peu importe le régime d'incarcération, il y a des différences qui sont flagrantes, il y a des choses qui sont parfois similaires, mais au final, l'enfermement, l'incarcération, peu importe les conditions, le lieu où on est, il y a quand même toujours des choses qui reviennent, quoi. Et du coup, l'idée, c'était d'un peu donner aussi une... Bien que je travaille sur des lieux bien précis, de donner comme une forme un peu d'informalisation, enfin de quelque chose de... Pas de
d'homogène, quoi, on va dire.
D'homogène et de dire que voilà, l'incarcération, c'est ça va au-delà des frontières et au-delà des conditions d'incarcération, quoi.
Bah, c'est vrai que, enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent, on présente la Turquie comme... l'un des pays où les conditions de détention sont hyper dures, etc. Notamment parce que bon, la grosse différence, c'est que c'est des dortoirs par rapport à l'encellulement individuel.
À l'époque, ça l'était, ouais.
Effectivement, et je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu des grosses luttes dans les prisons turques contre l'encellulement individuel, si je ne me trompe pas.
Oui, il y a eu des grosses luttes qui étaient souvent menées par les prisonniers politiques. Parce qu'en Turquie, il y a une forte distinction entre prisonniers politiques et prisonniers conduits de droit commun. C'est souvent pas le même régime d'incarcération, ils sont pas mélangés. Et il y a eu des grosses luttes contre l'enseignement individuel à travers des grèves de la faim qui ont mené à des décès parfois. Mais par exemple, moi, la prison sur laquelle j'ai travaillé, qui était une prison avec des droits communs dans un bâtiment, des droits des prisonniers politiques dans un autre, elle a été vidée de ses prisonniers politiques en 2002, et ça a été hyper violent. Il y a eu 16 morts dans l'opération, c'était un coup de mort à balles réelles, enfin, c'était. Voilà, il n'y a pas trop de quartier pour. Mais depuis, ça a quand même changé, parce que. En fait, à travers cette opération, on est passé d'un enseignement collectif où les prisonniers politiques avaient plus ou moins la main sur l'organisation de la prison, un enseignement individuel pour lutter contre la mise en réseau et que les gens puissent s'unir pour lutter ensemble. Quoi.
Bien sûr. Ok. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous présenter un peu les personnes et les voix qu'on va entendre, en fait ?
Du coup, globalement, il y a quatre voix françaises, Bernardo, Jean, Jocelyn et Ludo, et trois voix turques, il y a Ömer, Önder et Eyüphan. Donc voilà, moi toute ma démarche était basée sur l'indifférence au passé pénal, donc du coup je n'évoque pas le pourquoi ils ont été en prison, ça, en fait moi je m'en fous un peu, même parfois je ne le sais pas moi-même. Donc voilà, ça a été un long travail en fait avec eux de collecte de témoignages. Donc c'était des témoignages qui ont été pris je les ai enregistrés pendant très longtemps chacun. Donc pour pouvoir aller au cœur des différents sujets que je voulais évoquer. Donc voilà, ça a été des gens qui sont sortis de prison dans les années, 90. En tout cas, les prisons ayant fermé dans le début des années 2000, c'était pour certains, ils sont sortis il y a très longtemps, d'autres très récemment, parce qu'ils sont rentrés dans d'autres prisons par la suite. Donc voilà, il y a différentes trajectoires de vie. C'est ça qui était hyper intéressant. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, ça a été des rencontres incroyables avec chacune de ces personnes-là. Parce que c'est des trajectoires de vie qui sont très lointaines de la mienne en tout cas, et avec des rencontres assez intenses finalement.
Ok. Alors juste peut-être pour conclure, tu l'as appelé panoptisme, tu peux rappeler ce que ça veut dire, pourquoi, et puis après si t'as d'autres choses à rajouter, t'hésites pas.
En fait le nom panoptisme, ça a été une longue réflexion pour moi, parce que je n'avais pas de titre pendant très longtemps. Et en fait, je me suis orienté sur Panoptisme pour plusieurs raisons. Parce que c'est l'architecture carcérale, et Panoptisme, c'est Foucault qui en a fait quelque chose autour de la surveillance un peu plus généralisée dans la société. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un projet sonore dont le titre appelait à une dimension oculaire, en fait. Parce que le panoptisme, c'est quand même le panoptique, c'est une. Voilà, c'est le fait de pouvoir surveiller en tournant sur soi-même dans un bâtiment. Et du coup, c'est l'œil qui appelle la surveillance. Et moi, ce qui m'intéresse, je trouvais ça assez chouette, le parallèle. Parce que dans Panoptisme, pour moi, on ne voit rien, mais on voit beaucoup finalement. Même s'il n'y a pas d'images qui sont proposées, il y a des images qui sont tout autres à travers le son, quoi. Donc c'était un peu pour ça que je l'ai appelé comme ça.
Ok.
Et du coup, là, ce soir, il y a 4 épisodes qui vont passer.
Ouais.
C'est vraiment le début de l'incarcération, même l'avant-incarcération. Donc, c'est surtout Ludo, ce soir, il y a Ludo, Ömer et Bernardo qui vont parler. Et donc voilà, on a l'arrivée en prison, la fouille, la cellule et le temps qui passe. Donc voilà, et du coup on retrouvera la suite qui arrivera.
Voilà, qu'on rediffusera nous plus tard dans les prochaines émissions.
Exactement.
Voilà.
Donc je voulais juste te dire aussi que c'est une deuxième diffusion à la radio, c'était diffusé à Marseille avant, sur Radio Grenouille.
Okay.
Donc voilà. Et du coup je souhaite une bonne écoute à tout le monde.
Eh ben merci à toi.
Merci à vous.
Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que vraiment ça montre à des gens, enfin ça. À des gens lambda ce que c'est réellement que la prison, et je trouve que vraiment c'est quelque chose, souvent les gens se l'imaginent pas, mais à l'écoute de ce truc vraiment on sent l'enfer de ce que c'est qu'être enfermé, quoi. Et je pense et j'ai trouvé ça bien, voilà. Et merci à toi,
merci beaucoup.
Et à bientôt,
à très bientôt,
allez, ciao.
Salut. Ciao.
7 février, un soir, à peu près autour de 19h. Et je vois arriver ces deux policiers en civil. J'étais persuadé que j'allais rentrer le soir même. Donc je suis allé sans rien prendre, sans rien dire à ma femme, sans même lui dire au revoir. C'est peut-être après dans la cellule du soir que j'ai compris que j'allais tout perdre. Dès que j'ai pénétré le commissariat de police d'Orange, je n'étais plus un homme. Donc je n'avais plus de maîtrise sur ma famille. En fait, c'est la justice qui avait la maîtrise sur moi et sur ma famille.
Gözaltına alındığın zaman mesela çeşitli işkence yapıyor. Mesela yaptığı işkence nedir? Yani elektrik veriyor, askıya alıyor. Yani darbe inmeyecek şekilde, belli olmayacak şekilde işkence yapılıyor. Mesela su vermez, yemek vermez. İstediği ifadeyi almaya çabalıyor. Bunlar da yani darbe olmadığı için rapor alman çok zor oluyor. Oradan savcılıktan cezaevine gidiyoruz.
Quand t'es mis en garde à vue, ils te font diverses tortures. Ils t'électrocutent, ils te suspendent, de manière à pas laisser de traces de coups. Par exemple, ils te donnent pas d'eau, pas de nourriture. Ils essaient de te faire dire ce qu'ils veulent. Et de là, t'es envoyé en prison par le procureur.
C'était une garde à vue assez simple parce que en fait c'était un jugement qui a été fait à l'avance. Le matin du 8, ils m'ont fait monter dans la voiture où je savais plus où j'étais personnellement, même je me demandais dans quelle ville j'étais. Et ils m'ont conduit directement en prison. La durée d'Orange à Avignon était une durée horrible. En sachant que ben, y a ces menottes qui gênent terriblement. Il y a ces trois flics dans la voiture. Et en même temps, des conversations de flics qui sont là pour démolir plus facilement que pour encourager.
Quand tu entres en prison, il y a une cellule de mise en quarantaine pour les arrivants. C'est un endroit où sont entassés les nouveaux. Ils te donnent qu'un bout de pain par jour et de l'eau pure, rien d'autre. De là-bas, t'as de la chance si t'arrives à être envoyé dans un dortoir sans qu'il ne t'arrive de problème.
Cezaevine teslim ediyorlar. Şey etmiyor yani, doktora dahi çıkamıyor. Zaten bir girersin karantinada gibi bir yer vardı. Yani toplama yeri gibi ilk gelenler. Hücrelerde yani bir tek günde bir tane ekmek verirler, başka hiçbir şey yasaktır. Bir su, bir ekmek, başka bir şey yoktur. Katıksız. Orada artık başına bir bela falan almadan koğuşa dağılırsan dağılıyorsun. Yani 3-5 tane çakal toplanmıştır. Gelen cebinde ne parası varsa almaya kalkar, bilmem ne. Yani onu bizlere biraz zor yaparlar da ilk gelen insanlar korktuğu için onlar cebindekini de verir. Hele yani mahkumun bir de kendi kendini şey etmesi var yani. Ezmesi var. İlk defa tutuklanmışım mesela, sen bir şey bilmiyorsun. Girer girmez ben koğuş mesleğim bilmem neyim, orada tutuyorlar onlar, gardiyanlarla anlaşmalı. Cebinde neyi varsa neyi yoksa alırlar. 3-5 gün sonra dağıtım olur, orada kalır yani. O da mahkumun birbirine yaptığıdır.
Les prisonniers s'écrasent eux-mêmes. Ils essayent de prendre l'argent des nouveaux venus s'ils en ont dans leur poche. Par exemple, t'es incarcéré pour la première fois, tu connais rien. Dès que tu rentres, y a quelqu'un qui se présente comme le chef du dortoir. Il te maintient dans cette cellule et te dépouille. Et il est en accord avec le gardien qui n'intervient pas. C'est ça ce que se font les prisonniers les uns aux autres.
karantinaya falan girdiğin zaman bitmiş, hepsi doluydu yani. Normal bir insan girdiği zaman komple bitleniyordu. Çok pis de yani. Bakımsız yer. Mesela sokakta yatıyor adam, hırsızlık yapmış da yapmış, gelmiş orada bir yatıyor. Sokaktaki adamın üstündeki bitler komple oraya yayılma yapıyor. İlaçlamıyorlar daha. Zaten nevresim, çarşaf, battaniye, onlarda hiçbir bakım yok. Koğuşlarda tamam, kendin geçiyorsun, kendin alıp düzeltiyorsun da karantina tamamen berbat bir yer.
Ces cellules de quarantaine étaient pleines de poux, donc un cadre normal qui y entrait en sortait pouilleux. C'était très sale, pas entretenu, jamais désinfecté. Quand t'es dans le dortoir, tu te fournis en drap et couverture, donc c'est toi qui les laves. Mais la cellule de quarantaine, c'est un endroit crade et horrible.
Quand on sort de cette voiture, on voit rien. C'est tellement trop rapide à ce moment-là. Il y a ces bruits qui commencent à résonner dans les oreilles, ces bruits de clés. Ce premier enfermement dans cette cellule d'arrivant et d'attente, ce discours assez direct de ce gardien qui est là et qui commence à vous voyer, qui ne parle plus à un être humain mais à un numéro, qui m'a presque paralysé à me dire « mais en fait tu sais pourquoi tu es là ?» Et en fait c'est aussi pour dire « ben tu n'es plus un être humain, tu es sous notre soumission. » Dès qu'on a ce numéro d'écrou, qu'on doit apprendre par cœur, parce que si on l'oublie, ben on est presque perdu dans la prison. On est accompagné par deux gardiens qui va nous faire visiter une cellule d'arrivant, où on doit rester une demi-journée dans une cellule qui est seule pour s'habituer en fait à l'odeur de la cellule, à l'atmosphère de comprendre qu'on est enfermé dans 9 mètres carrés et commencer à ne plus rien voir, parce qu'en fait dans cette cellule d'arrivant il y a une fenêtre mais qui a déjà des barreaux, et de l'autre côté on a cette porte. Sur cette porte il n'y a plus de poignée, on ne pourra plus sortir.
Anadan doğma soyuyor komple. Yani makineden falan geçtiğin hariçti yani. Komple hem jandarma soyuyordu hem gardiyanlar. Yani iki tarafta olduğu gibi komple işkence yapılıyordu. Mesela bu anadan doğma soyarak arama zaten şeydi.
Il te déshabille intégralement en plus de te faire passer par la machine à rayon. Il y avait à la fois les gendarmes et les gardiens qui te déshabillaient et te fouillaient. Il nous torturait en nous déshabillant intégralement.
On sait qu'on va être fouillé d'une manière totale quand on voit le gardien mettre des gants en plastique. Il parle pas, il y a les gestes qui sont là, il a juste un moment de dire « mets-toi à poil », mais en disant « de toute façon, tu y passeras quand même ». Tu n'as pas le choix.
Il nous maltraite, c'est comme de la torture. Et face à ça, tu peux rien faire. Tu es obligé de te déshabiller.
Esinti yapıyor yani, o bir nevi işkence yani. Hiç yapılacak bir şeyin kalmıyor yani orada. mecburen soyunmak zorunda kalıyorsunuz. O önemli değil yani, nasıl hissedersen hisset, o onlar için geçersiz yani. Ya tabii ki insan eziliyor, sıkılıyor, ne yapıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Mecburi aramaya geçtikten sonra giyiniyorsun.
Ce que tu ressens n'a aucune importance pour eux. Bien sûr que tu te sens humilié et oppressé, mais tu n'y peux rien, donc après la fouille, tu te rhabilles. Il leur arrive même de fouiller à nu des visiteurs, donc les gens ne veulent plus venir au parloir.
Pire, c'est la première. Tu n'as pas le contexte de savoir ce qu'il va faire. Car tu es dans l'inconnu total, donc tu n'as pas une attitude de comprendre les gestes qu'il va faire. Parce qu'à cet instant-là, de la première fouille, j'étais persuadé qu'il n'y en aurait plus. Et que c'était la dernière. Mais finalement, ce n'est pas la dernière. À la fin de la fouille, il y a un silence total et il y a un regard qui est direct vers le gardien en lui disant « Mais si c'est moi maintenant que je te le faisais, comment tu pourrais réagir ?» Et en même temps, une façon de vite se rhabiller, et presque comme si tu avais assisté à un viol et que tu voulais t'enfuir le plus vite possible. En fait, c'est pas au moment de la fouille qui m'a fait le résonner le plus. C'est au moment que je me suis dit, mais c'est un homme qui m'a fouillé. Et en même temps, je suis devenu vraiment une lâche, une merde après tout de même, de me laisser si facilement faire. Tout le monde pourra faire tout ce qu'il voudra de moi.
Bayrampaşa'da 80'er kişilik koğuşlar, 2 koğuş 160 kişi bir bahçeye çıkıyor. 80 kişi bir koğuşta kalıyor. 80 de karşı koğuşta kalıyor. Aynı bahçeye çıkıyor. Yani 160 kişi hep bir arada yaşamış oluyoruz. Düzenleme kendi elimizde zaten. Yataklar, herkesin ranzaları bellidir. Normal mesela uzunlamasın yani üçlü ranzalar var. 3 kişi yani 1-2-3 normal olarak sıralıdır. Bir koridor vardır. Banyo, tuvalet kapı girişindedir. Tuvalette banyo. Merdiven altında da çay yaptığımız yer vardır.
À Bayrampaşa, les dortoirs sont de 80 personnes. Deux dortoirs utilisent la même cour de promenade, donc 160 personnes vivent dans un même espace. Il y a des lits superposés sur 3 étages qui s'étendent tout le long du dortoir. Les toilettes et la salle de bain sont à côté de la porte d'entrée. Sous les escaliers, il y a l'endroit où on prépare le thé.
de la cellule d'arrivant à la cellule réelle, c'est le choix du directeur de nous mettre dans une cellule à 4 ou à 5 et de cohabiter avec ces co-détenus. La première cellule que j'ai faite, quand je suis arrivé, j'ai eu un moment de panique parce que en fait j'ai vu 6 lits superposés et 3-3. Dans cette cellule, il y avait une table qui était placée au milieu, un placard, et ce qui m'a énormément dérangé et pris peur, c'est ce fameux toilette turc qui était au milieu de la pièce, sans porte.
À cette époque, à Bayram Pacha, tout était imprévisible. On ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer à l'instant suivant. C'était un milieu très délétère, c'est pour ça que je me maintenais à distance de tout le monde. On s'asseyait et on discutait, mais seulement avec certaines personnes. Avec les gens bien élevés et respectueux. Mais avec les autres, c'était juste « bonjour, au revoir ». Et c'est seulement parce qu'on est obligé, parce qu'on se voit sans arrêt. On est 15-20 personnes qui s'apprécient. C'est pour ça que c'était difficile pour les autres de nous approcher.
O zaman Bayrampaşa'nın şeyi her an ne olacağı belli olmayan bir şeydi yani. Yani hangi gün ne olacak belli olmuyordu. Çok bozuktu. Onun için biz yani herkesten uzak duruyorduk. Konuşuyor, normal otururuz, sohbet ederiz, ne yaparız. Tabii belirli insanlar, belirli insanlarla. Yani şeyle söyleyeyim. Bir insanları nasıl ayırayım ben sana? Bir efendi grup vardır, bir kendini bilmeyen grup vardır. Bizim o kendini bilmeyen gruplarla işimiz olmaz zaten. Saygılı, sevgili insanlar. Otururuz, muhabbet ederiz. Yeri gelir işimizi bırakırız. Otururuz, sohbetimizi yaparız. Ama böyle insanlardan kesinlikle yani merhaba, merhaba. O da mecbur yani devamlı birbirini gördüğümüz için. Birbirini seven 15-20 kişi bir birimize bir şey olsa biz birbirimize sahip çıkıyoruz yani. O yönden ağırbaşlı efendi olan kendini taşıyabilen bir insana yanaşma şekilleri zordu.
Je suis arrivé vers midi et demi dans cette cellule. J'ai vraiment écouté dire par la bouche du gardien « Voici votre gamelle ». Mais en fait, c'est le langage parfait de la prison. Et là, le pire moment que j'ai passé, et le dernier, parce que j'ai su m'imposer dans la cellule, et je pense que c'était le moment du test, c'était tout simplement de leur dire que je n'étais pas le chien de la cellule, et que je nettoierai pas les assiettes des autres. Alors dans une cellule de prison et dans un comportement d'un détenu, il y a des grades. Il y a le grade de caïd et il y a le grade d'esclave. Et entre le grade de l'esclave et du caïd, j'ai fait l'expérience que ça s'est renouvelé à tout instant. Et le juste milieu entre le caïd et l'esclave, en fait, il y a le brave, qui était peut-être le terme que j'emploierais pour moi. C'est pas celui qui va tout faire. C'est pas celui qui va tout supporter. En fait, c'est le caïd de la cellule qui décide tout. Et en fait, ce caïd informe les autres. En fait, si tu deviens esclave à un seul instant, tous les co-détenus de ton étage principal est informé.
Thank you. On choisissait un ou deux chefs de dortoir, c'était comme des gérants. On leur mettait deux aides. On essayait d'organiser la vie commune et de tout faire de manière ordonnée. On faisait des réunions tous les 15 jours ou toutes les semaines où on discutait des problèmes et on essayait de les régler ensemble.
Şimdi altıs koğuş olduğu için ya bir tane ya iki tane meslek seçeriz. İdareci gibi bir şeydir yani. Bunun iki tane de yardımcı koruz. Yemek şeyini düzen, çay saatlerini falan düzenlemeye bakarız. Televizyon saatlerini düzenlemeye bakarız. Banyo şeylerini. Yani her şeyi bir düzgün şekilde yapmaya bakarız. Biz 15 günde haftada bir toplanırız. Herhangi bir sorunlar aşılacak sorunlar var mı? Problemler var mı? Onları hep beraber çözer. Bunlar yani bir nevi yönetici durumuna geçmiş oluyor. Yani orayı yönetmekten, hakkımı idare etmekten şey diyor. Biz kendimiz seçiyoruz. Zaten idare seçmiş olduğu mesleler fazla şey etmez yani. O idareye çalışan mesildir. O sonu pek hayırlı olmaz onun. Onlar hariç biz hiç kimsesi gelmeyen yani fakir insan hiçbir şey dışarıyla ilgisi olmayan üç kişiyi ayırırız mesela. Onlara kendi aramızda bu biri temizliğe bakar, biri banyo tuvalet temizliğine bakar, biri yemek ekmek alır. Bunlara biz haftadan haftaya kendi aramızda durumu şekli olanlar para veririz. Toplarız hepimiz. Bu üç insana veririz. Bir de tabii bizim sabun masrafları bilmem koğuşu temizlik malzemelerini falan ya, yani bunu cezaevi hiçbir zaman vermez. Biz kendi aramızda şey yaparız. Sigaralar olsun neler olsun biz alırız. Tabii onlar da elinden geldiği kadar temizlikte falan yardımcı olurlar yani. Onlar da şey yapmaz. Para topladığımız insanlar. Yani kendi aramızda dayanışmamız vardır yani.
En dehors de ça, on choisissait trois personnes, des pauvres qui n'avaient rien, qui s'occupaient de différentes tâches ménagères. Chaque semaine, on récoltait de l'argent entre nous, ceux dont la situation était meilleure, et on le donnait à ces trois personnes. Donc on avait une forme de solidarité entre nous.
Quand on rentre en prison, c'est une mort lente. Hein. On arrête de vivre, on continue à vivre, mais on ne vit plus. Quoi. La vie, elle s'arrête là. Quoi. Le temps s'arrête là et après, c'est un autre monde. C'est un autre monde où il faut combattre et s'adapter et surtout oublier tout l'extérieur. Quoi. Sinon, je crois qu'on pète les plombs. Hein. Et puis on risque de perdre son intégrité. Quoi. C'est où t'avances ou tu te casses la gueule. Hein. Voilà, bah comme j'ai toujours eu tendance à faire de l'avant, j'ai toujours fait en sorte voilà, d'essayer d'oublier l'extérieur pour m'adapter à l'intérieur et à faire mon petit trou dans ce monde-là. Quoi.
Zaten alacağımız ceza bellidir bizim. Bu cezanı temize yolluyoruz. Ne yapıyoruz? Bozar bozmaz onları şey yapıyoruz. Düşük de alırsak da o artık hakimin savcının elindeki bir şeydir. Bir de savunmamıza bağlıdır. Yani. Ondan sonraki şeyi biz tabii ki içeride daha düzgün geçirmek için o düzeni kurmaya bakarız. Yani dışarıyı artık biz beynimizden siliyoruz. İçerideki düzeni sağlamaya çabalıyoruz. Huzurlu olmak şey.
De toute façon, on sait quelle peine on va avoir. On l'envoie en cassation et en fonction de notre défense et du bon vouloir du juge, c'est de son ressort de nous mettre une peine moins longue. Après ça, on essaie juste de construire un ordre pour vivre correctement le temps de la peine. On efface l'extérieur de notre cerveau. On essaie juste de mettre en place notre routine pour vivre paisiblement.
Je savais que je rentrais pour un parcours qui risquait d'être assez long. Malheureusement, j'étais plus ou moins habitué aux rentrées. Et là, je savais que ça allait durer encore bon, quelques années. Et bon, ben, quand on rentre là-dedans, en fait, On pense qu'une chose, c'est de faire son trou pour éviter de subir le moins possible les effets négatifs du monde carcéral. Essayer de voir un peu s'il y avait des gens que je connaissais, ce qui pourrait me permettre de pouvoir un peu me mettre un peu en place pour pouvoir enquiller soit au sport, soit dans des activités qui me permettaient de sortir un peu, de pouvoir un peu me sortir un peu de la cellule et m'occuper un peu l'esprit, quoi, voilà.
Normalement, je me lève le matin vers 6-7 heures, je bois mon thé, je prends mon petit déjeuner, et après je me mets à mes perles, et je parle pas avec grand monde. J'étais obligée d'y passer de longues heures parce que je voulais parler à personne. Je pouvais travailler 10 heures ou 12 heures.
Normalde ben sabah 6-7 gibi kalkarım, çayım mayımı yaparım, kahvaltımı yaptım mı, kendi boncuğumu çalışırım, kimseye mahtap olmasın. Akşam öğlen yemek yersem yiyordum, yoksa akşam yemeğini yerim. Belirli bir işi yaptım mı, kendi istirahatımı yapıyordum. Normalinde fazla mahtap olmuyorduk. Belirli bir saatimi geçirmek zorundaydım. Çünkü kimseye mahtap olmamak istediğim için 10 saat, 12 saat çalışabiliyordum.
Quand on est là, ma foi, on se dit, putain, c'est quand que je vais sortir de là, mais bon, le problème, c'est qu'il vaut mieux pas trop se le dire souvent, parce qu'on sait que chaque journée dure 24 heures, 24 heures, c'est 60 fois une minute par heure, c'est non-stop, faut oublier, faut essayer de s'investir dans l'aboutissement, en fait. Voilà, faut se mettre dans la peau du taulard, et après, bon, évidemment, il y a la famille à l'extérieur qui te rappelle qu'il y a une vie malgré tout. Mais à la limite, ça te fait plus de mal pour eux que pour toi, parce que toi, ma foi, à la limite, le problème, c'est que les gens que tu laisses à l'extérieur, c'est eux, à la limite, qui souffrent le plus. Bon, moi, en l'occurrence, j'avais une petite fille de 2 ans, j'étais en train de construire une famille, enfin, je croyais pouvoir construire une famille, puis finalement, voilà, quoi. Une nouvelle fois, cette chute, ça allait être une gringolade.
Comme ta peine est définie, tu dois la purger. Donc on comptait pas en mois, mais en années. On comptait pas en mois ou en jours, comme les gens normaux, comme les courtes peines.
Belirli bir ceza olduğu için, onu yatmak zorundasın. Bunu zaten bitirmek için artık biz yani aylara falan saymıyorduk, senelere sayıyorduk. Normalde bir insan gibi ufak cezalar gibi günüm şu kadar, günüm bu kadar demiyordu.
On n'était pas libérés de la prison de Bayram Pasha. On était transférés vers des prisons ouvertes. À partir de ce moment, on se met à compter les jours.
Biz Bayram Pasha'dan tahliye olma şeyimiz olmuyordu. Açıklardan oluyordu. Veyahut başka cezaevlerinden oluyordu. Günlerimiz azaldığı zaman o değişik bir şeydi. Yani Bayram Pasha'da biz hüküm aldığımız zaman dağıtıma gidiyordu. Başka yerlere, yani başka vilayetlere. Açık cezaevlerine gidiyordu. Günümüz azaldığı zaman. O zaman günümüzü sayıyoruz. Bir sene kala denetime çıkıyoruz. Şu an ben denetimdeyim ya. Benim bir ayım geçti, 11 ayım daha var.
Quand tu restes un an, t'es libéré en conditionnel. Actuellement, je suis en conditionnel. Un mois est passé, il m'en reste 11 à faire.
Et voilà, vous êtes à l'écoute de Papillon sur Radio Dio 89.5 et Radio Canu 102.2. Donc voilà, c'était des extraits du documentaire qui s'appelle Panoptisme, qui a été fait par Antoine Boujard. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le retrouver sur net, sur SoundCloud. Voilà, si vous tapez Panoptisme SoundCloud, faut pas se moquer. Pourquoi faut vous moquer ?
On se moque pas.
Ouais, okay, bon.
On admire en fait la performance.
Okay. Et bah, vous pouvez le retrouver. Voilà. Et on repassera la suite.
On passera la suite dans les prochaines émissions. Ouais.
Dans les prochaines. Voilà. Du coup, on va enchaîner sans transition ni petite musique.
Ben peut-être à la fin la petite musique. Oui, en attendant, vu que le temps presse un peu, on a avec nous sur le plateau deux personnes qui font partie de l'organisation de ce forum pour le désarmement de la police et la démilitarisation des conflits, donc qui se tient à Saint-Étienne ce week-end, donc les 22-23 octobre. Donc je sais pas si vous voulez présenter un peu qui vous êtes, qu'est-ce que c'est que cette histoire de forum de désarmement et de démilitarisation. Donc bonsoir.
Bonsoir. C'est une question qui se pose pas mal en ce moment à Saint-Étienne, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Du coup, en fait, c'est un collectif de gens divers et variés, que ce soit des gens syndiqués, des gens pas syndiqués, des gens qui postent, des gens qui sont étudiants, des gens qui travaillent pas, des garçons, des filles, des gens de partout, qui sont motivés à organiser quelque chose à Saint-Étienne, parce que dans notre chère et belle ville de Saint-Étienne, il y a une usine qui vend des armes, que ce soit à l'étranger ou pour nos forces de l'ordre, qui s'appelle Vernet Caron. Et ça fait quand même des plombes qui sont là, et ça fait des plombes qui se passent pas grand-chose par rapport à cette usine d'armement, justement. Et on voulait un peu se saisir de ça il y a quelques temps, et on a décidé de plus ou moins discuter entre amis. Et j'ai failli dire une connerie. Et de pouvoir sortir un peu des textes, dire ce quelles étaient nos envies par rapport à ça. Et de là est sortie l'idée de faire un week-end complet sur l'armement de la police, l'armement dans les guerres qu'on peut faire. Que la France peut faire à l'étranger, les ventes d'armes pour les pays ou pour les polices des pays étrangers, et voilà.
Et du coup, ça, si je me trompe pas, ça s'inspire aussi en partie d'un événement qui s'était tenu l'année dernière dans le Finistère, qui avait, je sais pas si, donc c'était plus ou moins la même idée, en fait. Ça s'était tenu à peu près un an jour pour jour après la mort de Rémi Fraisse.
Oui.
Donc c'était un rassemblement, quelques jours de rassemblement et de discussion autour de l'usine Nobel Sport qui fabriquait
les grenades de désencerclement.
Les grenades de désencerclement. Donc est-ce que, je sais pas, si l'intention c'était un peu la même chose, ou si, je sais pas si vous voulez continuer là-dessus.
Je sais pas si on prend vraiment du temps pour ça, mais oui, c'est sûr que l'initiative qui avait été faite à Nobel Sport, elle était intéressante, et ça donnait des idées pour se motiver à faire des choses là où il y avait des usines d'armement, là où la police préparait un peu ces choses ou s'équiper, et on peut dire que à Saint-Étienne on est plutôt bien fourni, parce qu'il n'y a pas que Vernet Caron par exemple, il y a aussi le banc d'essai pour valider les armes, toutes les armes, donc qu'elles soient létales ou non létales, comme ils aiment bien dire. Et voilà. Donc,
parce que là du coup le symbole, enfin symbole entre grosses guillemets un peu, c'est.
Grosses guillemets.
Grosses guillemets. C'était de voir que en fait cette usine là, Vernet Caron, c'est eux qui ont inventé et développé
le flashball. Qui l'ont même déposé comme marque. Ouais.
Ok, et donc ça c'est un truc qui a été assez présent dans les dernières années, et aussi vachement dans les derniers mois là avec
le mouvement social. Ouais.
Ouais.
Mais oui, c'est sûr qu'après, du coup, ils fabriquent les flashballs. Du coup, il y a quand même énormément de victimes de ça, parce que souvent Vernet Caron se cache derrière le fait que en fait, les flics ne savent pas s'en servir. Mais Je vous conseille d'ailleurs un spécial investigation ou un lundi investigation vraiment très cocasse sur Vernet-Caron et les flashballs. Ça s'appelle Attention danger flashball. Il y a des perles. Le mec de Vernet-Caron, c'est vraiment, enfin, il est magique dans ses phrases. C'est un truc assez incroyable. Donc voilà. Et oui, c'était sur la thématique du flashball parce que pendant les mouvements sociaux, c'est sûr qu'ils vont pas tirer au FAMAS sur les manifestants. Enfin, pas pour l'instant. Mais du coup, il y a tout ce dispositif d'armes dites non létales, mais qui mutilent, parfois tuent, mais en tout cas laissent toujours des séquelles, et surtout aussi impriment une sorte de sentiment de peur dans la tête des manifestants. Et c'est vraiment le but premier de ces armes-là, c'est de faire flipper, que ce soit les manifestants d'ailleurs, ou les gens, enfin, peu importe en fait qui se retrouve en face de ces armes-là, c'est vraiment le flip de perdre un œil, quelle que soit la raison. Il y a un gamin, je sais plus, je crois que c'était en banlieue parisienne, il y a un gamin qui s'est fait arracher un testicule par un tir de flashball, il avait 11 ans je crois, parce qu'il jetait des pétards le soir du 14 juillet. Et sur rien, sur personne, mais juste ils ont tiré comme ça vaguement, et puis voilà, ils ont arraché une couille, super.
Donc, il y a eu un mort je crois.
Il y a eu un mort, je crois que c'était un tir dans la cage thoracique. Et du coup, mais pareil, ils vont dire que parce que la personne avait un malaise cardiaque, je pense que ce sera les premières conclusions de l'autopsie, et puis après ils diront un autre truc, et puis après ils diront qu'ils s'excusent, et puis après ils diront qu'ils... Enfin non, ils diront jamais qu'ils s'excusent d'ailleurs, je pense.
Donc, ouais, donc c'est aussi une occasion de parler donc, de l'armement policier, mais aussi plus du rôle de la police en général, peut-être dans notre monde, en France.
Oui, dans le maintien de l'ordre.
Ok. Ouais. Bah, je sais pas si vous voulez détailler un peu peut-être le week-end pour qu'on ait une idée un peu plus précise de ce qui va s'y faire et à quoi il faudrait qu'on s'attende.
C'est un week-end qui a été pensé en plusieurs temps. D'abord et surtout le fameux festival du samedi. Ouais. Le rendez-vous est donné à 15h, donc place Albert Thomas en contrebas du musée d'art et d'industrie. Parce que Saint-Etienne, au-delà de fabriquer le flashball aujourd'hui par Vernet-Caron, était aussi l'ancienne Armeville, et le carnaval et cette parade un peu déambulatoire festive a été pensée comme ça aussi, sur une idée de revenir sur notre passé un peu militaro-industriel, de remettre en avant tout ça. Donc voilà le point de départ au musée d'art et d'industrie.
C'est malheureusement fermé, on est vraiment très triste.
C'est samedi 15h.
On vient déguiser avec plein de cotillons et des confettis et des sonos et tout un tas d'autres choses.
Ouais.
On revient aux origines du carnaval et de tourner en dérision aussi les puissants et la puissance peut-être de l'armement et des armes. Enfin, il y a un peu tout un tas d'idées derrière. S'enchaînera après un concert de soutien du coup à la Gueule Noire. Avec plusieurs groupes.
Ouais,
à quelle heure
ce sera, le concert sera à partir de 21h, 21h30. Essayez de ne pas arriver trop à la bourre quand même. du coup, il y aura Tout doit disparaître, un truc de Cold Wave de Gers Lyon. Il y aura Dub Mentaliste donc, qui nous fera un petit mix bien sympa comme la dernière fois. Bien assuré, et il y aura DJ Latache qui nous fera un petit mix comme elle seule sait les faire. Et okay. Voilà, et ce sera à prix libre l'entrée, il y aura une adhésion prix libre aussi au lieu, et tout ça sera à partir de 21h.
Donc ça c'est à la Gueule Noire.
À la Gueule Noire, quartier samedi Bellevue. Soir, quartier Bellevue.
Ok.
Et
ouais, je t'écoute.
Et le forum continue le dimanche.
D'accord.
Donc là, le forum prend son sens avec du coup toute une journée de discussions, de tables rondes, de rencontres et d'échanges qui se déroulera à partir de 10h au Clapier.
Donc à l'ancienne gare du Clapier, c'est ça ?
Qui s'appelle le Clapier. Voilà. Au Clapier, en face de la maison de l'emploi, la c'est Belle. Je ne sais pas si on détaille, on donne
bah ouais,
un peu
les
deux thématiques peut-être des tables rondes. Il y aura une table ronde le matin qui s'intéressera au commerce et à l'industrie de l'armement français.
Français.
Comme intervenant, il y a entre autres Mathieu Rigouste, le bien connu, qui a pu écrire L'ennemi intérieur ou Marchand de peur, et l'Observatoire de l'armement, qui sera également de la partie.
Ouais.
Y a d'autres temps dans la journée pour se défouler ou apprendre à se défendre, pour manger tous ensemble et se retrouver aussi avec une table ronde l'après-midi qui, elle, s'intéressera à l'ordre colonial et à l'état d'urgence permanent, de l'ordre colonial à l'état d'urgence permanent, évolution du maintien de l'ordre. Là, on retrouve comme intervenant Désarmons-les, le collectif Désarmons-les, le collectif Urgence Notre Police Assassine et des militants de la cabane juridique de Calais. Okay. Pour finir, avec tout un tas d'autres temps aussi, il y a quand même un moment d'AG à 17h qui a été pensé pour voir un peu les pensées et avancées du week-end, comment chacun a pu le vivre et qu'est-ce qu'on projette derrière tout ça.
Est-ce qu'il n'y aura pas aussi...
tu veux rajouter des trucs encore,
c'est vrai. Non, mais j'ai vu ça sur un collectif de gens qui a écrit un livre sur les frères de la côte, sur les pirates.
Sur la pirate somalienne. Oui, ça c'est dans la table ronde à partir de 14h où le collectif viendra pour intervenir là-dessus. Et sinon, la discussion de la table ronde sur le commerce et l'industrie de l'armement français, c'est de 11h à 12h30. Mais sinon, le clapier sera ouvert normalement à partir de 10h, ça commence, et jusqu'à, on va dire, 17h, c'est l'assemblée de clôture, du coup, jusqu'à, à mon avis, 18h30, ou un truc dans le style. Et il y aura de la soupe au pistou le midi. Voilà. Ah. C'est important, c'est important. Ouais. Il faut bien se nourrir.
Tout à fait.
Et
vous voulez rajouter des choses, non?
Je sais pas, peut-être vous aviez... Il me semblait que vous avez... Peut-être un peu envie de parler de... Il y avait eu peut-être déjà quelques retours des médias par rapport à ce week-end-là.
Du coup, je vais utiliser la blague que j'ai fait en off il y a un quart d'heure. Donc je pense que le progrès, il devrait plutôt mettre comme message pour les caractériser. Si on mettait les cons sur orbite, on n'aurait pas fini de tourner, comme c'est l'affiche qui est en face de moi. Clairement, juste le progrès, je sais pas avec quoi ils écrivent, ni avec quel cerveau malade ils peuvent se permettre de rédiger des trucs pareils, mais c'est un truc de cinglé. Donc du coup, en fait, selon le progrès, c'est la CNT qui organise ça. Donc la CNT en a plein le cul de recevoir des messages sur son répondeur disant comment on fait, est-ce qu'on peut vous interviewer, vous organiser le truc, c'est génial. En fait, non.
Ils sont signataires.
Oui, ils sont signataires, mais bon, du coup, en fait, ils soutiennent le truc. Ce papier est un torchon, clairement. Enfin, il manque plus que les fautes d'orthographe, et puis là, on est dans la totale, quoi. C'est ridicule, c'est pathétique, c'est le progrès, quoi.
D'accord. Mais par exemple, s'il y a des personnes qui veulent vous rencontrer ou vous interviewer ou quoi, il y a peut-être des contacts à fournir qui pourraient être bons à avoir. Donc je sais pas, par exemple sur l'affiche, on voit il y a une adresse d'un blog.
Je crois qu'on dit blogs en 2016.
C'est ça.
Ouais.
Et donc c'est désarmons la police, désarmons sans accent .noblogs.org. Et peut-être, je sais pas si vous avez une adresse mail, si jamais on veut vous envoyer un mail.
C'est vernetcaron@riseup.fr avec une faute d'orthographe volontaire à vernetcaron, du coup il y a un seul R.
Voilà. D'accord, et ben.
Donc écrivez pas à la bonne adresse vernetcaron parce que sinon vous commandez des armes.
Ok. Voilà. Je sais pas si vous voulez. T'as envie de rajouter quelque chose.
C'est l'heure, de toute façon.
Bon, derrière le studio. Je sais pas si vous avez envie de rajouter un truc.
Bah non, mais juste du coup de dire que la population stéphane, en tout cas les gens qu'on a pu rencontrer ces 15 jours, 3 semaines dernières qui viennent de passer, étaient assez effrayés, et du coup le torchon du progrès participe aussi au fait que ça fasse peur aux gens. Mais en soi, en fait, on veut faire un carnaval et visibiliser et mettre un peu sous la lumière le fait que cette boîte là devant laquelle énormément de gens passent tous les jours, en fait elle produit des armes qui butent des gens qui déglinguent des gens dans des quartiers, qui déglinguent des gens dans des manifestations, qui déglinguent des gens super régulièrement, et du coup l'idée c'est vraiment de rendre visible cette chose là donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, en fait il faut venir, il faut montrer qu'on est fort ensemble, et c'est comme ça qu'on avancera avec le plus de confiance, en tout cas.
Ok. On termine là-dessus.
Ouais, on rappelle nos contacts.
Les contacts de l'émission Papillon, ouais. Qui s'écoute les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. C'est donc par mail, c'est émissionpapillon@riseup.net. Et sinon, pour nous écrire, c'est chez Émission Papillon, chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du Mont, 42100 Saint-Étienne. Et puis on termine ici. On vous remercie beaucoup. Et puis,
merci d'être venu.
Allez les verts.
Et ouais. Les verts jouent ce soir.
Et 5 minutes.
Ça va gagner.
ça va gagner,
c'est sûr. Et
ça, c'est juré.
Ça va être un beau week-end.
Et je crois que vous vouliez nous proposer un morceau pour terminer l'émission.
Oui, je sais plus.
Je rajouterais juste avant que nous, on joue au football et on n'a pas de frontières.
Exactement, contrairement à certains.
Voilà. Et du coup, oui, ambiance carnaval, du coup, petit morceau pour conclure.
Petit morceau un peu carnavalesque. Et essayer de sourire, en fait, ça va être un week-end souriant quand même.
Ouais, et fort. Merde, pardon, force et courage. J'ai coupé mon micro, ça, juste au moment où je parlais. Force et courage à tout le monde, et puis on se revoit dans 2 semaines. Ouais. Et la semaine prochaine, ne manquez pas la petite cuillère.
Gardez la pêche.
Allez,
ciao, bonne soirée.